Bonjour, je suis donc Nathalie Donneau, je suis conseillère pédagogique dans la Canébie de Nantes. Je travaille avec le groupe de pilotage départemental plus de maîtres que de classes et dans une circonscription de l'agglomération nantaise qui est la circonscription de Rezé-Sud-Loire. C'est la deuxième année que je travaille sur le dispositif en Loire-Atlantique. L'objet de cette intervention, ça va être de proposer un exemple parmi de nombreux autres exemples que vous connaissez d'accompagnement du dispositif avec l'entrée organisation départementale mais aussi l'accompagnement de circonscription. Alors sur le versant piloter, former, accompagner, je vous montrerai comment les modalités au niveau départemental s'articulent entre les différents types de formation. Et sur le versant enseigner, apprendre, on essaiera de commenter quelques évolutions qui sont déjà sensibles sur le terrain et pour lesquelles certainement vous aurez des réactions avec des points de comparaison sur vos secteurs. Alors, en Loire-Atlantique, depuis 2 ans, on constate une volonté départementale forte et un nombre assez important de postes compte tenu du département. Cette année, on est à environ entre 40 et 45 ETP, ça représente une 60aine d'écoles sur notre département. Et une réelle prise en compte des apports en formation. L'année dernière, l'IFE était engagé avec notre département. Patrick Picard est venu à plusieurs reprises travailler avec nous. Et nous avons aussi une articulation assez forte avec la recherche, en lien avec l'ESPE, l'Université de Nantes, et Marie-Théric, qui est intervenue hier. Sur notre département, il y a une coordination qui est assurée à 2 niveaux. Alors, on va retrouver des choses qui ressemblent un petit peu à ce qui a pu être mentionné hier, notamment avec les groupes d'appui dont il a été question hier après-midi. En Loire-Atlantique, on a en fait 2 niveaux différents. On a d'abord un groupe de pilotage qui est une instance de décision. Alors là aussi, je vous vois prendre beaucoup de notes. Tous ces documents-là seront évidemment mis sur l'espace collaboratif. Donc un groupe de pilotage qui est une instance de décision qui est composée d'une 12aine de personnes, donc on est sur un format un petit peu restreint, avec l'IEN adjoint à l'inspecteur d'académie, mais aussi des IEN, des CPC, la représentation de la cellule académique recherche-développement, la CARDI, et puis la représentation de l'ESPE. Donc là on est sur une instance décisionnelle. Cette instance-là s'accompagne d'un deuxième niveau d'instance qui est plutôt du côté de la mise en œuvre et qui est organisé avec un comité de suivi. Alors ce comité de suivi, par contre, il est beaucoup plus important en nombre de personnes puisque toutes les circonscriptions ayant des dispositifs plus de mètres sont représentées, ce qui veut dire chez nous à peu près une bonne vingtaine. Dans ce comité de suivi, donc, on a au moins un CPC de chaque circonscription, ce qui assure une régularité et une présence réelle au niveau des réunions. Et depuis cette année, on a organisé une subdivision avec des groupes de travail. Alors, je vais en dire un petit mot également. Donc, on a sur ce comité de suivi les CPC des circos, mais aussi des coordonnateurs de REP, des formateurs de l'ASH, et encore une fois, le lien avec l'ESPE, la recherche est toujours présent. Alors les groupes de travail qui ont été mis en place cette année, ça c'est quelque chose qui commence tout juste. C'est destiné effectivement à alimenter le travail et permettre l'analyse partagée. On a un groupe de travail qui s'intéresse à la mise en œuvre des formations sur le département. Un groupe de travail qui s'intéresse à la diffusion, parce qu'on a un petit peu abordé cette question-là hier, la question de sur le département, on a un espace web, qu'est-ce qu'on y met, quel type de ressources ? De la ressource institutionnelle, il y en a déjà beaucoup. Il y a des ressources nationales. Il y a d'autres départements qui ont mis en œuvre des espaces web avec des documents. Quelle serait la spécificité d'un autre espace web? Qu'est-ce qu'on va y ajouter, etc. Donc ça, c'est une vraie question. On a aussi un groupe de travail qui s'intéresse un petit peu à la question de l'évaluation, que je vais laisser délibérément en suspens parce qu'elle pose, vous l'avez vu, vous le savez bien, beaucoup de questions. Et puis un quatrième groupe de travail qui réfléchit à la mise en œuvre de synthèses et de documents qui vont être des points d'appui pour alimenter l'espace collaboratif. Voilà les 2 niveaux de travail au niveau départemental. Cette année, le plan de formation que nous avons mis en œuvre est un plan de formation qui s'organise en cascade. Alors je vais vous montrer un petit peu comment il a été pensé. L'idée, c'était de prendre en compte dans le plus de mètres tous les acteurs à leur niveau d'intervention. Donc tout d'abord, on est sur une formation de formateurs qui a été prévue cette année pour 18 heures, c'est-à-dire 3 journées. Ce qui est relativement dense et conséquent en volume par rapport au plan de formation départemental. La formation de formateurs occupe pas mal de place en Loire-Atlantique et celle-ci a été prise en compte de manière évidente. Alors dans cette formation de formateurs, bah, évidemment, on a souligné hier l'importance de nourrir les conseillers pédagogiques, les formateurs qui interviennent sur ce dispositif-là. Donc on a bien évidemment à intervalles réguliers quelques apports théoriques en lien avec l'avancée de la recherche. Et puis on a aussi un souci de formation sur le fait que les conseillers pédagogiques eux-mêmes vont déployer des formations dans les circonscriptions. Donc comment on les outille et comment on guide aussi l'analyse, notamment à partir des vidéos. Vous en avez vu un certain nombre, notamment à l'IFE, on a produit quelques-unes. L'objectif, c'est aussi, quand on est conseiller pédagogique, on a une vidéo entre les mains, qu'est-ce qu'on en fait en formation? Donc la formation de formateur, elle a aussi cet objectif-là. À côté de cette formation de formateur, juste après, parce que tout ça c'est chronologique, oui. Alors, les formations de formateurs, ici, elles sont prioritairement destinées au CPC. Ça n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'on a aussi des coordinateurs de REP qui sont systématiquement aussi invités. Les IEN ne sont pas sur les formations de formateurs, en tout cas pas dans le format qui a été conçu cette année. Par contre, à intervalles réguliers, en lien entre les groupes de suivi et le groupe de pilotage, ils sont aussi destinataires d'un certain nombre d'éléments. Et bien souvent, sur les formations des maîtres plus et maîtres E, un certain nombre d'entre eux viennent assister à ces journées, qui sont pour l'instant, telles qu'on les a conçues, des journées qui étaient en plénière, parce que sur le département, ça représentait à chaque fois une bonne centaine, entre 100 et 120 personnes. Eh bien, parce qu'en fait, ils étaient dans un certain nombre de cas pour eux, en termes d'articulation, ils ressentaient le besoin d'avoir aussi un certain nombre d'outils par rapport aux différents sujets qui pouvaient être abordés. Voilà. Donc, pour l'instant, ils ont été associés. Alors, un certain nombre de choses ont pu être traitées. Donc, cette année, je vais vous dire un petit peu où on en est sur la formation des maîtres plus et des maîtres E. Donc on a aussi, en lien avec la formation de formateurs qui avait eu lieu début septembre, la formation des maîtres plus, maîtres E est intervenue cette année assez vite aussi au plan de formation. Elle était dans la deuxième quinzaine du mois de septembre, donc assez vite. Et on a travaillé là aussi à partir de situations vidéo. Donc ça, c'était le support de travail. Et l'idée, c'était d'engager la réflexion des maîtres plus et des maîtres E sur les spécificités des choix retenus dans les vidéos, de travailler en commun sur cette analyse. Et à partir de ça, de questionner aussi la didactique. Parce qu'en fait, un certain nombre d'outils vidéo, quand on réfléchit à ce qui est montré, au-delà de la question de l'organisation, on a bien vu l'année dernière, enfin hier, que c'était une des entrées par lesquelles l'année dernière tout le monde ne commençait à travailler. Autant cette année, on a déplacé la focale. Donc après les questions d'organisation, on s'intéresse bien sûr maintenant beaucoup plus au contenu. Et à travers ces vidéos, on a ressorti un certain nombre d'éléments qui permettent de faire des interventions sur un plan didactique. Donc du coup, on analyse les situations de classe. Et ensuite, on a un apport complémentaire sur ce que peut être que travailler, par exemple, l'enseignement de la compréhension. Notamment, on l'a fait à partir de la petite vidéo qui était, pour ceux qui connaissent ce support de l'IFE, comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Suite à ça, justement, toujours dans cette formation des maîtres plus et maîtres E, après les apports didactiques, on a aussi des liens qui sont les apports de la recherche. Et là aussi, très apprécié, parce que ce sont des moments finalement peu fréquents dans les parcours de formation. Et on a une dernière partie de journée qui est autour du partage d'expérience. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on essaye de guider, de structurer à partir d'un certain type de questionnement, de façon à pouvoir produire des documents de synthèse qui sont en cours d'élaboration. Donc là, on a un format après type travail en atelier. La formation des maîtres plus et maîtres E s'accompagne ensuite d'une formation des maîtres plus avec leur équipe d'école. Et ça, c'est la déclinaison CIRCO. C'est la déclinaison animation pédagogique. Ça a été un petit peu abordé hier et beaucoup d'entre vous ont souligné le fait que, et puis notamment les maîtres plus, former les maîtres plus sans travailler avec les équipes, c'est un petit peu compliqué et ça crée un certain nombre de tensions. Donc il paraît bien évident que toutes les équipes d'école doivent participer à cette réflexion-là, entendre, en tout cas au moins en partie, les éléments de formation qui sont apportés. Alors notre parti pris à nous, ça a été ensuite de travailler donc avec les maîtres plus qui avaient participé à la journée, à la première journée du mois de septembre, de les réinviter, mais cette fois-ci en présence de leur équipe d'école. Et quand on dit équipe d'école, c'est toutes les personnes qui interviennent avec eux sur le dispositif Maître Plus. Et là, délibérément, on a choisi des entrées qui sont... alors, encore une fois, dans l'analyse de pratique, mais là, cette fois-ci, nous, sur notre circonscription, on n'est pas parti de documents filmés pour pas non plus qu'il y ait trop de redondance d'une fois sur l'autre, mais de l'analyse d'une situation écrite. Et on s'est attaché à réfléchir à une description de situation en production d'écrit pour montrer le rôle du Maître Plus par rapport au rôle du maître de la classe et la complémentarité. Équipe d'école, donc enseignants, mais aussi, bien évidemment, les directeurs des écoles concernées. On en redira un mot un petit peu plus tard. Alors, au moment de ce travail avec les écoles, ça a été quelque chose de très riche aussi sur les secteurs, sur les animations pédagogiques, parce que finalement, ça a interrogé les collègues. Et certains nous ont dit clairement, mais est-ce que j'ai besoin d'être là? C'est une formation pour les maîtres plus, est-ce qu'il faut que je vienne? Moi, j'ai même un directeur d'école qui m'a dit, mais... Là, je vois que je suis concernée. Là, tu m'as envoyé un mail. Moi, j'ai pas de maître plus dans ma classe. Est-ce qu'il faut que je vienne? Bon, donc ça en dit long aussi, encore, hein, malgré le travail fait sur les représentations qu'on peut avoir et sur la place que peut prendre le directeur dans une animation d'équipe. Je vais juste sortir de ce document une minute pour vous montrer aussi à chaque fois quelques éléments concrets. Alors, par exemple, ici, au moment de la formation de nos maîtres plus dans les équipes d'école. En fin de session, on les a engagés dans un travail de co-préparation, c'est-à-dire que je vous disais qu'on avait commencé par un descriptif de situation, qui était celle d'une production d'écrit au cycle 2. Et en deuxième partie, on a essayé de les mettre un petit peu au travail en disant, ben voilà, vous êtes réunis cet après-midi, demain le maître plus va intervenir dans votre classe, le maître plus sera là ou la semaine prochaine. Essayons de réfléchir ensemble à un outil qui peut vous permettre de co-préparer et qui soit un guide, une trame de travail pour essayer systématiquement de voir quelle est la place du maître plus par rapport à la place du maître de classe, sans dissocier les deux. Notre préoccupation était vraiment de montrer l'articulation. Quel que soit le mode d'intervention, là cette fois-ci on n'est plus rentré dans le est-ce que c'est externalisé, est-ce que c'est dans la classe, est-ce que c'est en tandem, etc. Mais quelle que soit votre organisation, quand vous allez préparer votre séance, à quel moment est-ce que le maître plus va être nécessaire et quel point de vigilance il va avoir, auprès de quels élèves par exemple. Donc on a proposé cette trame-là, qui était une trame évidemment comme tout document qui est évolutive et que chacun a besoin de s'approprier, dans l'idée aussi de repérer... de s'interroger sur comment ensemble on lance l'activité quand on est sur un apprentissage. Comment est-ce que c'est présenté aux élèves? Qu'est-ce qu'ils en comprennent? Pourquoi est-ce que le maître plus est là? Qu'est-ce qu'il vient faire dans la classe? L'idée, c'était pas de faire quelque chose de très détaillé, mais de repointer un petit peu les différents temps de cette séance pour comprendre, là aussi, l'apport spécifique du maître plus. Que fait le maître de classe pendant que le maître surnuméraire travail ou inversement, comment est-ce qu'on clôture l'activité, ça aussi, point essentiel. Et puis une ou deux petites lignes pour que le maître plus et le maître de la classe fassent un petit bilan de la séance. Donc cette trame-là qui a été proposée a été la base de la discussion que les maîtres plus ont pu avoir avec les maîtres des classes concernées, dans un temps qui était nécessairement très court, puisque c'est celui de l'animation pédagogique, mais ce qu'on espère, c'est que ça puisse rebondir un petit peu et les aider à travailler sur le moyen terme. Alors là aussi, hein, je ne vous cache pas qu'en termes de réaction, ça a été très varié. Il y a des collègues qui ont été plutôt rassurés, intéressés par le fait d'avoir des trames partagées, de comprendre que chacun avait sa place dans une préparation de séance et que ce n'était pas le maître plus qui arrivait avec ses propositions, qu'un numéro 1, qu'un numéro 2, le maître de la classe qui commence une séance et qui dit au maître plus « tiens, t'as qu'à faire ça ». Voilà, donc, et entre ces deux extrêmes-là, vous voyez tout le panel des possibilités. Donc l'idée, c'était de se mettre ensemble autour de quelque chose de partagé. Et puis un collègue qui nous a dit très clairement, « Ah ben oui, mais moi, faire ça, moi, ça ne m'intéresse pas. » Bon, donc quand on prend ça, on se dit, voilà, il va falloir rebondir et essayer de montrer l'intérêt d'un travail partagé. Et là, ça s'est fait, en fait, par l'équipe qui a rebondi. Ce n'est pas les conseillers pédagogiques qui ont dit, « Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. » C'est l'équipe qui a dit, « Ah ben, comment veux-tu faire si on ne discute pas en commun de l'organisation de notre séance ?» Non. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous paraît important dans ce type de formation, ce qu'on a essayé de montrer, c'est la co-construction qui est importante, c'est-à-dire la co-préparation. les formes d'intervention, moi, je n'ai pas plus que vous, je pense, d'a priori sur ce qui peut marcher ou ne pas marcher, tant cela dépend des conditions de mise en œuvre et des objectifs visés. Hein, voilà. Mais à chaque fois, ce qu'on a essayé de montrer, c'était que quelles que soient les formes d'intervention retenues, il fallait quand même bien s'atteler à la question comment est-ce qu'on se met ensemble autour de cette question-là, même si c'est dans des lieux différents. Hein, voilà. Alors, là, dans cette formation des maîtres plus et des équipes d'école, on a très clairement deux demi-journées sur le temps des animations pédagogiques. Et puis, ça totalise 15 heures parce que derrière, on a essayé de profiter de toutes les offres possibles en termes de formation. Et dans les animations pédagogiques, on a gardé un petit temps aussi pour avoir des temps en présentiel et à distance. Alors, la formation hybride magistère étant en cours d'élaboration, on n'est pas du tout sur ce type de format, mais néanmoins, on propose des ressources en ligne et des temps d'échange collaboratifs en complément. Le souci, c'était de profiter au maximum du temps qui était imparti aux enseignants en termes de formation. Et dernier niveau de notre cascade de formation sur les départements, la commission départementale maîtrise de la langue a proposé un stage de binôme maître plus maître de CP, et là aussi de façon très systématisée, c'est-à-dire que tous les maîtres de CP du département participent avec au moins un maître de CP à une formation sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Deux journées de stage dans l'année pour au moins 120 personnes. Donc là aussi, c'est en termes de remplacement, voilà, vous voyez bien ce que ça représente sur un département. Ça montre bien les intentions qui sont quand même conséquentes. Alors, ces formations en cascade, pour vous permettre de comprendre un petit peu, et puis nous aussi, hein, parce qu'aux différents niveaux, je vous ai montré de pilotage et de comité de suivi, le temps que tout le monde visualise un petit peu les choses, j'ai essayé de les regrouper en formalisant un petit document qui montre cet effet justement de cascade et comment une formation a une conséquence sur les autres. Donc celle-ci, c'est la première dont je vous ai parlé, la formation de formateurs. Donc vous voyez, ça, là, sur le premier trimestre, on a eu une journée. Peu de temps après, la formation des maîtres plus et des maîtres E, qui est ici, c'est un stage remplacé. Ensuite, on a 3 heures d'animation dans nos écoles de circonscription, donc mis en œuvre par tous les conseillers pédagogiques qui ont assisté aux formations précédemment, donc il y a une articulation réelle. Et puis derrière ça, encore une journée de formation, le stage binôme maître plus, maître de CP. Et sur la deuxième partie de l'année, on va être sur le même fonctionnement, c'est-à-dire que la semaine prochaine, dans la semaine suivante, on repart sur une formation de formateur, puis une formation maître plus maître E, une formation de circo, une journée de stage. Donc ce sont nos deux cascades de formation. Ah non, il y a de multiples autres formations. C'est effectivement, on n'est pas dans le même schéma que celui qui a été présenté hier sur Lyon, où il y avait une exclusivité, on va dire, sur le maître plus cette année. Néanmoins, alors moi je ne peux pas vous dire en termes de journées remplacées, il faudrait que les conseillers pédagogiques de l'IENA me donnent leur enseignement, ce que ça représente en pourcentage en volume et en pourcentage par rapport à l'ensemble du plan de formation, mais il y a d'autres formations remplacées quand même. Alors, l'organisation a sensiblement changé depuis l'année dernière, depuis les réunions auxquelles tu as pu assister, puisque l'an dernier, le groupe de pilotage en fait rassemblait la totalité des IEN ou des conseillers pédagogiques des circonscriptions concernées. Donc on était quand même un grand groupe et qui a eu pour mérite effectivement de mettre en place en fait ce calendrier, puisque vous savez bien qu'on le conçoit assez longtemps à l'avance en année N-1. Et des réactions qui forcément étaient diverses, vives, de part et d'autre. Mais par rapport à l'organisation de cette année, le souhait qui était celui de l'IENA qui était encore en place l'année dernière a été de resserrer le groupe de pilotage de façon à faciliter déjà les prises de décision et ensuite d'organiser la mise en œuvre avec cette fois-ci un groupe plus élargi. Donc c'est pour ça que je vous ai montré tout de suite ces deux niveaux de pilotage. Donc ça a changé. Et du coup, là, dans le groupe de suivi, dans le groupe de pilotage, il y a des IEN, mais dans le groupe de suivi, ce sont les conseillers pédagogiques et formateurs. La seule petite nuance sur la journée maître plus, maître E, c'est pour les maîtres plus qui ne sont pas à 100% sur des postes maître plus. Dans certains cas, certains sont dans une classe à 50%. C'est pour ça que ça apparaît dans le plan de formation sur les stages remplacés. Mais en volume, c'est effectivement peu. Alors, à la marge, hein, le premier trimestre s'est bien déroulé. Rien n'est écrit d'avance pour le deuxième, et on sait bien que là aussi, on est soumis au même type de tension que vous, c'est-à-dire qu'en fonction des possibilités de remplacement, il arrive aussi en Loire-Atlantique que le stage soit annulé. Oui. Alors justement, j'y viendrai un petit peu tout à l'heure parce que ça fait partie de nos points de questionnement. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin et voir l'exemple d'accompagnement au plus près du terrain que nous pouvons proposer à travers l'exemple de la circonscription sur laquelle je travaille, qui est celle de Rezé. Donc la circonscription de Rezé, circonscription urbaine de l'agglomération de Nantes. Cette année, on a 3 groupes scolaires qui sont dans le dispositif et qui représentent 3 postes de maître plus à 100%. Donc nous sommes 2 conseillères pédagogiques. Le principe pour les écoles, c'est d'avoir un CPC référent. C'est-à-dire c'est toujours le même CPC qui travaille avec l'école. Depuis le début de l'année, on a essayé de mettre en place avec eux une méthodologie et compte tenu du fait que l'organisation du temps est très complexe et que vous avez bien tous les intervenants hier ont souligné ces problèmes de temps, c'est vraiment le nerf de la guerre, j'ai essayé de réfléchir à des modalités de travail qui permettaient de donner de la lisibilité. Donc là aussi, je vais vous proposer un petit document qui est un document de travail, qui est le support des réflexions avec les équipes. Alors, ce document-là, je l'ai communiqué aux écoles et on a travaillé dessus. Le principe, je vous en montre d'abord l'ergonomie, c'est qu'en fait, j'ai préparé pour chaque école une fiche qui montre les différents moments de réunion. Donc il y a une fiche par période. Par période, on essaye de voir à quel moment on a besoin de se réunir. Alors par exemple, ici, en période 1, on a commencé au début de l'année, au moment de la pré-rentrée, par installer le dispositif dans l'école. Et pour ça, on a pris une demi-journée avec chaque école pour aller voir le calendrier, l'emploi du temps du maître plus, comment on allait observer les élèves, quels axes de travail, etc. Donc ça, c'est la case jaune, c'est du travail en équipe. Donc du travail en équipe qui est pris sur du temps institutionnel. Ce que j'ai essayé de montrer aux équipes, c'est justement la prise en compte du travail sur le temps institutionnel. Ici, vous avez dans cette colonne-là les lieux, parce qu'en général, ça se passe à l'école, mais pas que, ça peut être ailleurs, et quels sont les formateurs concernés au niveau de l'équipe de circonscription. Donc ici, sur cette période 1, c'est la période de septembre, octobre, jusqu'aux vacances de la Toussaint. Juste après, sur le temps scolaire, moi je prends toujours un petit moment où je garde une demi-journée avec le maître plus pour travailler un petit peu avec lui à la préparation, ou avec elle, à la préparation de ses interventions. Donc là, c'est une journée, encore une fois, sur temps scolaire, ça prend, en général, on garde 2 heures. Et à ce moment-là, le maître plus n'a pas encore démarré avec les classes, mais on travaille un petit peu sur les objectifs de travail, les modalités, les outils. Donc ça, c'est un travail, on va dire, de proximité dans l'école où je viens travailler avec la personne, mais d'autres le font aussi, bien évidemment, j'ai entendu hier. Ensuite, sur le temps scolaire, au niveau du calendrier, intervenait là la première journée de stage départemental, maître plus, maître E, à laquelle étaient présentes aussi les IEN, d'autres CPC, les représentants de l'université. Donc ça, on en a déjà parlé. Toujours sur le temps scolaire, on arrive ici, là, au quatrième temps, qui est une demi-journée d'observation dans les classes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a maintenant sur la circonscription institutionnalisée, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas systématisée. C'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, on vient voir ce qui se passe dans la classe. Pas dans le but de venir filmer et d'avoir des traces. On a changé un petit peu de focale par rapport à l'année dernière. Mais là, le but, c'était d'avoir une personne extérieure qui vienne observer et aider à l'analyse du travail, maître plus, maître de classe. Et j'insiste toujours, c'est maître plus, maître de classe. Moi, quand je viens dans les écoles, je ne viens pas voir que le maître plus. Alors là aussi, ça peut créer des tensions, mais ça a été expliqué, partagé, à tel point que je vous redirai ça tout à l'heure, mais moi j'ai maintenant des équipes qui me demandent « quand est-ce que tu viens ?» Alors là, juste quand on m'a dit ça cette année en début d'année, je n'y croyais même pas. Dans le sens où l'année dernière, j'y allais vraiment sur des œufs, avec beaucoup de prudence, en disant « voilà, je vous propose de venir voir, mais vous pouvez vous saisir de cette perche-là, si ça vous semble difficile, etc. On reporte, on attend, etc. » Et cette année, au contraire, c'était quelque chose d'attendu. Donc vraiment un changement de posture. Ça dépend de la taille de l'école dans laquelle intervient le maître plus. Mais quand je viens, généralement, je viens pour une demi-journée, donc j'essaye de voir, par exemple, 3 interventions. sur trois classes différentes. Voilà, trois moments. En fait, j'ai déplacé un peu mon point de vue, moi aussi, par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que l'an dernier, le principal souci qu'on avait, c'était un souci de métier de mettre plus. Cette année, on se dit, la problématique, elle est sur vraiment le cœur, le sujet, c'est quand même les apprentissages des élèves. Donc, quels sont les apprentissages des élèves qui vous posent problème et pour lesquels vous aimeriez bien qu'on travaille davantage l'articulation mettre plus, mettre de classe? Et du coup, on a des collègues qui, enfin moi j'ai des collègues qui me disent, bah écoute ça, franchement je sais pas trop comment m'y prendre, voilà par exemple compréhension en lecture au CE2, je sais pas trop faire, j'ai des outils, j'ai des idées, j'ai commencé à travailler avec Lectorino, Lectorinette, mais je sais pas bien si c'est la direction du travail qu'il faut prendre, est-ce que tu peux venir voir? Et vraiment, non seulement je la constate pour une école qui est dans la deuxième année de ce dispositif, mais même pour une école qui cette année y entre. Et ça, enfin, moi aussi, ça m'a permis de déplacer un petit peu la focale de mon travail. Et du coup, cette école-là, qui est pourtant en année 1, est aussi très demandeuse. La période se poursuivait sur les animations pédagogiques, donc, dont on a parlé tout à l'heure. Je vais réduire un petit peu le document. Et on finit la période à chaque fois, là aussi, sur le temps scolaire, par deux choses. Alors, sur les 24 heures de travail en équipe, donc du temps aussi, du temps institutionnel, un conseil des maîtres, comme vous faites dans toutes les circonscriptions, à laquelle assiste évidemment le maître plus, le maître E, tous les enseignants concernés, et l'IEN dans la mesure de ses disponibilités, et dans la mesure aussi où il l'estime judicieux. C'est pas qu'une question de disponibilité. Hier, on a dit, il y a des moments où les échanges, voilà, vous le savez bien, ne sont pas forcément les mêmes. On ne parle pas des mêmes choses. Dans certains cas, les équipes ont l'impression que les IEN viennent faire du contrôle. C'est-à-dire, voilà, montrez-moi ce qui s'est fait et est-ce que vous êtes bien dans les clous. D'autres ont davantage le sentiment qu'on travaille en collaboration. Et donc, maintenant, c'est quelque chose qui est devenu habituel et les équipes sont habituées à ça. C'est-à-dire que l'IEN sera là ou pas là, mais ça ne change pas le contenu du conseil des maîtres. Et pour finir, toujours sur le temps scolaire, fin de période, là, c'est un temps que je réserve avec un entretien maître plus et directeur pour faire le lien entre ce qui s'est dit en conseil des maîtres. Parce qu'un conseil des maîtres, ça passe vite. Et surtout, vous l'avez signalé, quand on est sur des écoles où on a 15-20 personnes avec les temps partagés, les temps partiels, etc. Et on est vite sur des grosses équipes, donc on n'a pas forcément le temps de se dire tout ce qu'on voudrait. Dans certains cas, on reste sur l'organisationnel, le quantitatif. Donc ce temps après, je le prends sur le jour de décharge du directeur, généralement dans la même semaine ou dans la semaine qui suit. Et on fait un petit peu le débriefing de ce qui s'est dit en conseil des maîtres pour préparer la période suivante. En se disant, bon voilà, on va réajuster. Vous avez estimé qu'il y avait, par exemple, typiquement, il y a une école pour laquelle on a vu qu'il y avait une classe de CE1 avec une cohorte entière d'élèves qui avait énormément de besoins. Ce qui, moi aussi, m'interrogeait un peu sur la répartition des élèves dans les classes. Mais bon, en tout cas, la situation telle qu'elle est là, on a une classe de CE1 où il n'y a quasiment pas de soucis et une autre dans laquelle il y a énormément de besoins en termes d'apprentissage. Donc on a dû massifier les interventions. Donc cette régulation-là, elle se fait entre le temps du conseil des maîtres où on a fait le constat et le moment où il va falloir redémarrer la période suivante. On se dit, ben voilà, peut-être que deux fois par semaine de plus avec le maître supplémentaire, ce serait une bonne idée. Donc là, on déplace un petit peu le curseur et on revoit les emplois du temps. Et là, évidemment, la présence du directeur est juste indispensable. L'entretien, alors généralement, on garde un petit moment. Là, par contre, c'est du temps, on va dire, d'analyse entre midi et deux, sur un temps avant d'aller déjeuner, après la classe. Et je le formalise pas en quantitatif, parce qu'après, ça dépend un petit peu de ce sur quoi on a travaillé. Je voulais dire en termes de revendication, sur quel temps je le prends. Non, parce qu'en fait, pour eux, c'est du temps de préparation, et très rapidement, ils comprennent bien que le fait d'avoir travaillé ensemble sur ce petit temps d'analyse va les aider à préparer la suite, très clairement. Donc en fait, les situations auxquelles j'ai été confrontée là n'ont posé strictement aucun souci en termes de sur quel temps est-ce qu'on va se voir. Alors les outils, non, pour l'instant, puis je vais différer la question de l'évaluation, parce que pour l'instant, on n'a pas d'évaluation qui soit partagée. Donc l'évaluation et l'appréciation des besoins, elle se fait sur les outils de classe et les compétences des élèves en situation, sur de l'observation en situation. Hein, voilà. Et de fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les moments, moi, où je viens observer, et c'est souvent une des premières entrées, ce qui rassure énormément les collègues, c'est-à-dire que bien souvent, je leur dis pas, écoutez, je vous propose de venir voir comment vous travaillez, parce que ça, c'est pas forcément une des entrées les plus faciles. Mais par contre, je vous propose de venir voir avec vous, dans les activités que vous proposez, quelles sont les difficultés que rencontrent vos élèves à différents moments de l'apprentissage. Et j'ai constamment essayé d'inverser, enfin de partir toujours de ce point de vue. Et là, du coup, c'est vraiment important parce que les collègues ont l'impression qu'on s'intéresse à leurs problèmes, à leurs difficultés, et non pas qu'on vient voir comment ils font avec cette difficulté. Ça, c'est le deuxième temps. Oui, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On en est dans déjà ce qui me semble, moi, énorme par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire un territoire de confiance. C'est-à-dire un travail collaboratif qui se fait avec un conseiller pédagogique, en gros, qui vient dans l'école quand il veut. C'est-à-dire l'école est ouverte, et pour peu qu'on ait décidé ensemble du créneau, ça posera pas de problème de venir dans la classe de monsieur un tel ou de madame un tel. Et ça, c'est pour moi déjà extrêmement important, parce que ça ne va pas de soi. Voilà, donc je termine là sur cet aspect organisationnel, parce que là, pour moi, c'était une des entrées qui allait montrer aux équipes qu'on prenait en compte, là aussi, la difficulté de travailler avec un maître plus, en profitant de tous les temps institutionnels possibles, et que les temps d'échange, etc., c'était du temps de travail en équipe prévu. Et chaque période, on se remet d'accord sur, voilà, par exemple, un exemple pour la période suivante. Même chose, retour des vacances, on reprend un petit temps pour préparer les interventions du maître plus. On a toujours un moment de formation qui va venir s'intercaler là-dedans, des observations qu'on décide ensemble, un conseil des maîtres, un entretien directeur maître plus. Chaque période a ce type de schéma. Bien évidemment, ce document-là va vous être transmis également. Alors là aussi, ça nous a, je vous disais un petit peu, la difficulté qu'on avait à montrer aux directeurs l'importance de leur implication, ce type de formalisation les a aidés. Parce que aussi dans l'animation d'équipe, dans certains cas, c'est compliqué pour le directeur de trouver sa place. Hein, parce que autant il est effectivement responsable en termes d'animation, autant le temps imparti, les modalités, parfois tout simplement la personnalité des collègues, la façon dont quelqu'un s'impose ou pas, peut poser problème. Donc le fait de savoir qu'à intervalles réguliers, il y avait des rendez-vous et que ces moments-là, ils y seraient, ça c'est très important. Autre point aussi que je tiens à souligner, on travaille énormément en articulation avec les réseaux d'aide. Alors, l'année dernière, on a bien vu tous les points de questionnement, et quand je dis questionnement, je crois que le mot est faible, c'était même d'inquiétude hein, par rapport à la place des maîtres E et la façon dont le travail allait s'organiser. Donc le fait d'avoir posé les questions, mis à plat un certain nombre de choses, a aidé à travailler ensemble. Et cette année, sur le département, on a la chance de pouvoir travailler aussi avec le pôle ASH départemental, pour lequel il y a deux formatrices qui nous accompagnent aussi dans ce travail et qui aident à replacer les questions, dans certains cas, au bon endroit. Est-ce qu'on est sur de la difficulté? Est-ce qu'on est sur de la grande difficulté? Est-ce que cette question-là, on va la traiter avec le maître plus, ou est-ce que c'est plutôt le maître E qui va intervenir? Bon, alors évidemment, hein, tout ça, c'est rien n'est résolu, rien n'est figé, mais c'est beaucoup d'échanges ensemble. Et donc, l'IEN de circonscription suit évidemment tout ce travail, comme je vous disais, avec plus ou moins de proximité selon les possibilités et selon la pertinence. Mais en tout cas, il est toujours destinataire à chaque fin de période des bilans de fonctionnement de chaque dispositif. Alors ça aussi, je peux vous en dire un petit mot. Au moment où je vous disais qu'on avait le conseil des maîtres, on a créé un petit document support de façon à faciliter les échanges en conseil des maîtres. Et pour nous aussi, pour la circonscription, garder une trace de l'évolution de chaque dispositif. Parce qu'à l'intérieur de ça, on l'a vu, on brasse beaucoup de modalités de travail diverses. On se dit énormément de choses. Mais maintenant, dans ce qui est écrit et qui peut être un point d'appui pour la suite, c'est une réelle question. Alors je rebondis un petit peu sur votre remarque par rapport à l'évaluation, parce que pour nous, ce document-là est un document, on va dire, d'évaluation un petit peu dans le fil, en continu du fonctionnement du dispositif, même s'il ne permet pas d'évaluer finement l'évolution des compétences des élèves, mais il permet d'évaluer comment le dispositif évolue à l'intérieur de chaque école, d'une période sur l'autre. Donc sur chaque période, on essaye de cibler pour chaque classe les apprentissages qui ont été visés, combien de séances par semaine ça représente, les modalités de travail, c'est-à-dire grosso modo quel type de forme, quelle forme d'intervention ils ont retenu, et surtout quelle analyse ils en font et sur quoi ils repartent pour la période 2. Ce document-là est un point d'appui sur lequel on travaille en conseil des maîtres, de façon assez, on va dire, assez sobre, classe par classe. Mais j'ai eu la surprise, moi, de voir une équipe qui m'a rendu un document, je n'avais même pas forcément demandé de restitution, en tout cas pas immédiate, où tous les collègues avaient renseigné toutes les cases, et j'ai reçu un document qui faisait 6 pages. à l'issue du conseil des maîtres. En fait, cette modalité de travail qui faisait que systématiquement le maître de la classe s'interrogeait sur qu'est-ce que j'ai fait avec le maître plus et non pas qu'est-ce que le maître plus est venu faire dans ma classe. Là encore, on a déplacé systématiquement la focale, ce qui permet d'impliquer tout le monde et d'avoir une discussion d'équipe vraiment riche et constructive. Et du coup, effet aussi collatéral, les collègues des autres classes s'intéressent à ce qui est fait dans la classe des voisins. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été beaucoup remonté, parce que c'est pas seulement le maître plus qui sait ce qui se passe ici et là, ce qui est déjà quand même un élément appréciable, parce qu'il connaît aussi du coup des cohortes entières dans des écoles. On a des maîtres plus qui connaissent tous les CE1, tous les CP de certaines écoles. Mais le fait de partager ces temps au conseil des maîtres permet à chaque enseignant de se dire « Ah ben tiens, toi tu travailles comme ça, ou quand tu travailles avec le maître plus, il fait ça dans ta classe ?» Est-ce qu'on peut en parler, tu peux me dire, etc. Du coup, c'est quelque chose qui crée vraiment une synergie en termes de travail d'équipe. Voilà. Alors, dernière partie, je vais aller un petit peu plus vite pour conclure. Les évolutions. Donc, avec cette organisation, ce pilotage départemental, cet accompagnement de circonscription, forcément, même si tout est encore en cours, on constate bien évidemment des évolutions qui sont sensibles sur le terrain. Alors, beaucoup de choses ont évolué hein, depuis l'année dernière chez nous, notamment dans toutes les écoles avec lesquelles je travaille, vraiment une recherche de cohérence, avec des emplois du temps qui sont partagés, avec des activités, des apprentissages qui sont mis en barrette à certains moments dans les écoles, de façon à ce que tout le monde fasse à certains moments certains types d'apprentissage, et le maître plus a aussi ses repères, sait quand est-ce qu'il peut intervenir. On a des priorités qui sont beaucoup plus explicites. C'est-à-dire que cette année, on a vraiment fait en sorte que les équipes s'intéressent à des objets d'apprentissage, des problématiques précises, de plus en plus précises. On avait bien sûr, dans certaines équipes, des questions sur quand même, ce serait bien que le maître plus n'oublie personne et vienne aussi au cycle 3. Oui, vous le savez bien tous. Et en même temps, on est obligé de recentrer sur les priorités qui sont quand même vers le cycle 2. Donc là aussi, essayer de faire bouger les lignes sans imposer et sans dire « non, ça n'est pas comme ça ». Il faut aussi que ça soit compris, discuté et analysé. Donc là aussi, on constate que ça bouge. Les organisations maintenant partent beaucoup plus des besoins en termes d'apprentissage. Donc comme je vous disais au début, on ne part plus des organisations pour savoir ce qu'on va faire, mais des apprentissages qu'on veut mener pour savoir comment on va les organiser. Des équipes d'école qui tirent profit des apports en formation. Alors vous allez me dire, heureusement, parce que vu l'organisation mise en place, ce serait quand même dommage que ce ne soit pas le cas. Mais là aussi, de façon assez réactive, l'année dernière, j'ai mis en place un travail avec une équipe sur un certain nombre d'outils, parce que bien sûr, on l'a dit hier, certains demandent des outils un peu clés en main, certains en ont besoin pour démarrer. Mais d'autres équipes sont aussi en recherche et aiment bien travailler à partir de supports plus ouverts. On a mené l'an dernier, avec le maître animateur TUIC, des formations sur le logiciel Ideographics, par exemple, de l'AFL, qui est tout sauf du clé en main, qui oblige à s'interroger sur le contenu d'un texte et sur ce qu'on va en faire et en quoi il va déclencher un certain nombre de pistes en termes d'apprentissage. L'équipe se l'est appropriée très vite et a choisi ses textes, les a rentrés dans le logiciel, a préparé ses banques d'exercices. Donc c'est intéressant de voir que ce qu'on propose et suivi des faits. C'est un côté un petit peu rassurant. On a, je vous le disais, une confiance accrue envers les CPC, un travail en collaboration. Alors ça, c'est toujours vrai, hein. Même si il y a dans certains cas, et comme je vous dis, tout le monde, les équipes, les collègues sont parfois différents de par leur personne, mais dans la très très grande majorité, ils sont demandeurs et le travail se fait vraiment en collaboration. Je vous disais que les écoles nous demandent quand est-ce qu'on vient. Et j'ai même une collègue qui intervient dans un groupe scolaire pour lequel il y a élémentaire et maternelle. J'étais venue en élémentaire auprès des classes de CP, CE1. Et juste après, elle me dit « Mais ce serait bien que tu viennes voir aussi ce qu'on fait en maternelle. » Voilà, ils sont vraiment dans l'attente. Et justement, ce jour-là, quand j'étais venue, donc j'ai répondu aussi à la demande. Puis ça m'intéressait de voir ce qui était fait en termes de... C'était sur l'entrée dans l'écrit en grande section. Et quand je suis arrivée dans l'école, c'est pareil, là je n'avais rien demandé de spécial. L'équipe m'avait préparé une fiche de préparation complète qui concernait tous les groupes qui allaient être pris en charge. C'est juste là quelque chose, je me suis dit, ouf, quelle avancée. Parce que c'est quelque chose qui prend du temps, demande une réflexion collective partagée et que personne n'avait exigé. Ce qui est intéressant, c'est de constater que l'équipe ressent le besoin de formaliser des outils pour travailler. Donc les échanges professionnels, ben, nombreux, les traces écrites partagées, ça renvoie au bilan dont on a parlé. La complémentarité avec les enseignants spécialisés. Donc là, il me semble que sur notre territoire, en tout cas, ça s'est apaisé, même si je pense que sur le département, il reste d'autres points certainement de tension avec les maîtres E. Et puis même parmi les d'autres éléments qui rentrent en compte, une incidence sur le rythme scolaire. Là je me rappelle d'un échange que j'ai eu avec une équipe en début d'année où on s'interrogeait sur très concrètement à quel moment le maître plus allait venir l'après-midi dans cette classe de grande section. Et les collègues me disent, bah oui, mais tu comprends, c'est pas possible parce que la récréation, on peut pas mettre deux interventions ou trois, je sais plus comment c'était, parce que la récréation, elle est à tel moment, clairement, elle était juste avant la fin de la demi-journée. Et du coup, on s'est regardé en disant, mais bon, il va peut-être falloir prendre les choses un petit peu autrement. Pourquoi est-ce que votre récréation est une demi-heure avant la fin de la classe, quoi? Autrement dit, il n'y avait pas de créneau derrière. Je dis quand même, cette réforme-là avec Maître Plus, elle vise à développer des apprentissages pour les élèves qui en ont le plus besoin. Parallèlement, on est quand même sur une réforme des rythmes scolaires. Ça paraît difficile de ne pas tenir compte des temps les plus pertinents pour les apprentissages. Et du coup, en fait, juste, c'était une question que l'équipe, c'était dans l'école tellement une habitude depuis tellement longtemps. Et puis voilà, vous le savez bien, on va dire, bah oui, mais tu comprends, les ADZEM, elles ont l'habitude de ci, de ça, en début de l'après-midi, en fin d'après-midi. Je dis, bah oui, mais alors là, on peut pas juste avoir le maître plus qui vient et lui dire, bah écoute, là, à 3h15, tu as fini, parce que là, c'est la récréation, et après, les élèves s'en vont. Et du coup, cette école a modifié l'horaire de la récréation. Ça, c'est un peu des entre guillemets, des dommages collatéraux qui sont partis, en fait, de l'intervention maître plus. Et puis, massivement, un grand changement dans les comportements des élèves. Et ça, sur les deux écoles avec lesquelles je suis, dans ce que je constate et aussi dans le déclaratif, on a des élèves qui sont au travail, très majoritairement. Vraiment, leur rapport au travail s'est considérablement modifié. Ils se mettent en projet, ils savent avec quels adultes ils vont travailler, parce que ça aussi c'était une crainte, c'était voilà, dans l'école ça va faire beaucoup d'adultes, ils vont changer, ils vont être pris en charge par un tel. Le fait d'avoir des emplois du temps très réguliers est très repérant pour eux, donc ils savent très bien à quel moment ils travaillent, avec qui et pourquoi. Et sur un conseil des maîtres, juste avant les vacances de Noël, j'ai même un collègue qui m'a dit, mais tu te rends compte, mes élèves de... Voilà, c'était un groupe de CM, quand ils ont du temps libre... Ils font pas d'activité libre, ils vont écrire des histoires. Ils ont mis en place dans cette école un travail à partir de la fabrique d'histoires. Ils m'ont dit, maintenant, les élèves, quand ils ont fini leur travail, ils vont écrire. C'est une école dans laquelle, jusqu'à il y a 2 ans, on avait un nombre d'incivilités assez important et des problèmes relationnels, on va dire, plus. Et la directrice dit, vraiment, notre école a changé, ça n'est plus la même école. Voilà, on est quand même sur des modifications qui, on l'espère, vont avoir des effets durables, quoi, autres que quantitatifs en termes de résultats, mais en termes vraiment d'attitude et de posture. Alors, quelques points de vigilance, parce que bien sûr, il en reste beaucoup, sur lesquels on va continuer à travailler. Alors, parmi ces points de vigilance, notamment pour nous en termes d'accompagnement de circo, hein, on est toujours sur optimiser le temps nécessaire à la co-préparation, à l'analyse, c'est-à-dire tirer parti de tous les temps possibles, réfléchir ensemble, donner un cadrage et montrer que les choses sont certainement en partie possibles dans un cadre institutionnel donné, même si on sait qu'il y a aussi beaucoup de temps libre et des échanges de mails le soir. On a aussi comme objectif d'aider les équipes à se centrer sur des problématiques d'apprentissage, parce que ça, on le constate, c'est toujours difficile, et même avec des enseignants chevronnés. Dire que souvent, on a des équipes qui nous disent, par exemple dans les bilans au moment des conseils des maîtres, on travaille la production d'écrits. Oui, on travaille la production d'écrits, mais sur les séances qu'on va mener, ou sur la séquence qui va être menée avec le maître plus, quelle est l'entrée ? Sur quelle partie de la production d'écrits ? Ou sur quoi est-ce que vous allez vous centrer avec les élèves les plus en difficulté ? Autre aspect important pour nous, c'est aussi de connecter, reconnecter les temps didactiques. Et ça, je ne m'étendrai pas sur cette question parce que Marie-Thérie va intervenir sur cette question-là. L'idée, c'est de travailler constamment, quel que soit le mode d'organisation retenu, c'est-à-dire que le maître plus soit dans la classe ou à l'extérieur de la classe, et en fonction des modalités d'intervention, comment est-ce que tout ça se reconnecte dans le temps de l'élève, le temps de l'apprentissage. Et puis, bien sûr, la question qui reste en suspens, c'est l'évolution des résultats des élèves. Et sur quelle base on va y réfléchir, mais je pense que le chantier est ouvert et que ce stage et d'autres formations nous aideront à y répondre. Voilà, donc pour nous tout ça c'est autant d'axes d'accompagnement pour les équipes de circonscription, et on nous a bien rappelé notamment au séminaire à Paris au mois de novembre que les circonscriptions étaient au cœur de ce dispositif-là, qu'il valait surtout ne rien lâcher, hein, si je me souviens les propos qui ont été tenus. Et c'est le séminaire Plus de maîtres que de classe qui a eu lieu à Paris au mois de novembre, au cours duquel les inspecteurs généraux, le comité national de suivi ont fait part des recommandations, des notes d'étape. Et en guise de conclusion, donc si effectivement pour moi la circonscription, et comme pour tout le monde, reste la cheville ouvrière à l'articulation de ce dispositif pour la mise en œuvre, nous justement sur le département, le deuxième levier sur lequel on va travailler l'année prochaine, c'est la place des directeurs dans le dispositif. Parce que si le pilotage vient de la circonscription, la circo peut pas être tout le temps dans les écoles. Et puis ce que fait un conseiller pédagogique n'est pas ce que fait un directeur. Il y a aussi des éléments dont on n'a pas parlé, mais qui sont la communication avec l'extérieur, avec les familles, avec les collectivités locales, etc. Il y a beaucoup de choses aussi à mettre en place. Et puis dans l'animation d'équipe, le pilotage de proximité doit revenir au directeur. Donc ça sera certainement nos prochains axes de formation. Alors c'est parce que... Oui, parce que je ne suis pas revenue dessus. Tous les projets, en tout cas sur notre secteur, les projets ont été déjà élaborés, évidemment, par les directeurs avec leurs équipes. Et en articulation avec les circonscriptions, ce sont les directeurs qui ont été les premiers maillons là, de cette chaîne-là, au niveau de l'élaboration des dispositifs, déjà. Hein. Donc, bien sûr. Mais ça pose problème parce que dans certains cas, on a des équipes avec des personnalités fortes. Et des maîtres plus qui aussi parfois ont des idées, des envies, des savoirs aussi, hein, et qui disent mais voilà, il faut travailler comme ci, il faut travailler comme ça, et donc il faut aussi travailler au cycle 3, la continuité, etc. de certains apprentissages. Et donc le directeur, effectivement, nous c'est aussi, je pense, notre rôle de les aider à se ramener au projet initial. Le dépôt de projet était on va dire, libre dans sa forme. Évidemment, il y avait des diagnostics. Et... Oui, bien sûr. Mais le fait justement qu'on ait, des conseils des maîtres, c'est-à-dire systématiquement sur cet objet-là à intervalles réguliers, génère cet échange entre les équipes sur des objets professionnels. Hein. Mais je suis bien d'accord avec cette interrogation, cette problématique, et pour nous, elle est réelle, et autant sur le terrain, on essaye d'y répondre par des présences partagées, autant je vous disais que ce sera l'objet de nos stages de formation l'année prochaine, donc je crois qu'on a une recherche à mener. Parce que l'entrée n'était pas la même. On n'était pas sur une entrée, justement, d'accompagnement d'équipe à ce moment-là. On était sur des entrées qui étaient des entrées didactiques, mais qui n'étaient pas... Non, mais je ne dis pas que c'est pas l'affaire des directeurs. Entendons-nous bien. Simplement, après, comme dans tous les secteurs, on a été amené à faire des choix, associer les directeurs à ces formations-là. Là, pour le coup, ça voulait dire en termes de remplacement quelque chose qui était juste pas possible. Donc, non, mais loin s'en faut. Oh non, loin s'en faut. Oui, mais c'est jamais les mêmes pour tout le monde. Donc c'est
deux ou trois petits commentaires réactions sur ce qu'on vient de discuter là, qui est en cours de discussion. Ça s'adresse aussi à cette dernière remarque. Bien sûr, il y a les questions de remplacement, mais si le raisonnement que vous tenez, moi je trouve alors franchement passionnant et extrêmement clair dans le déroulement, et je voulais monter un peu en généralité, mais c'est déjà tellement théorisé qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Mais quand même, il y a un petit bout d'incohérence, c'est que si le bout du bout, c'est d'arriver à dire qu'au fond, tout ça n'a de sens... que lorsqu'on arrive à faire reculer les limites de l'impuissance pédagogique, lorsqu'on arrive à améliorer les apprentissages des élèves, et que c'est le cœur de cible, vous l'avez dit, mais 10 fois sous différentes formes, on comprend que tout est structuré autour de ça. Et je vais revenir sur la notion d'accompagnement, parce qu'évidemment, ça donne une toute autre tonalité à l'accompagnement. Mais c'est ça que vous dites, du début à la fin. C'est la question, c'est quels sont les apprentissages visés? Et comment on s'y prend pour améliorer les apprentissages des élèves? Il n'y en a pas d'autres questions. Ça structure tout l'exposé et c'est remarquable. Du coup, décrocher la question de la place du directeur, sous prétexte qu'on parlerait de didactique, ça devient contradictoire. j'ai bien compris les raisons objectives qui faisaient qu'à ce moment-là, ce n'était pas le bon moment, etc. Mais sur le fond, c'est pour ça que je, au-delà de cette expérience, je renvoie ça à tout le monde. Si on dit que le cœur, c'est ça, alors il ne faut pas marginaliser des acteurs importants comme les directeurs du cœur. Sinon, on est en train de construire une double voie en disant, vous les directeurs, c'est l'organisationnel, et pour ce qui est du contenu, c'est ailleurs que ça se joue. Alors, voilà, c'était juste ce petit bout de ce qui pouvait être éventuellement apparemment une incohérence, même si je comprends bien que c'est le fruit d'une histoire et d'une disponibilité au moment où on réunit une formation et où on a ou pas les acteurs en question. Bien sûr. C'est pour ça que je dis que chacun fait comme il peut et on le débrouille. Mais ça vaut le coup, nous, qu'on essaye de regarder chacune des expériences en se disant, tiens, là, il y a un truc, il faut qu'on l'ait en tête, on peut aller. Parce que la réflexion qui est derrière, c'est, on est devant un dispositif qui est passionnant, mais qui en même temps est extrêmement casse-gueule, excusez-moi l'expression. Puisqu'on nous dit un texte de cadrage extrêmement léger, 10 principes, vous avez vu qu'avec ça, il faut en inventer des choses derrière. Du coup, il y a une grosse question qui est celle de la mutualisation des expériences des uns et des autres. C'est pour ça que Patrick a construit ces deux journées sous ce mode-là. Et on voit bien que c'est dans cette mutualisation qu'on va gagner du temps en arrivant à se servir des expériences des uns et des autres. D'ailleurs, moi, c'est... À ce sens-là, si tu me laisses un petit moment en début d'après-midi, je voudrais faire une proposition pour l'intercession sur la manière de gérer la mutualisation. Parce qu'on sent que c'est ça la question majeure. S'il n'y a pas un prescrit très fort qui s'impose, il n'y a qu'une alternative, c'est d'arriver à être intelligent collectivement et à se le faire savoir et à profiter de l'expérience des uns et des autres. Mais au passage, ce que ça dit, cette expérience-là, c'est qu'il faut être plus souple qu'on ne l'est sur la réflexion sur le leadership pédagogique. Parce que là, ce qu'on voit dans les trois exemples depuis hier, c'est qu'il y a des organisations d'acteurs extrêmement variables, selon que ce leadership, il va être effectivement porté. Mais c'était votre réponse, hein. Je ne sais pas pourquoi je répète ce que vous venez de dire, au fond. Tantôt par des maîtres plus particulièrement dynamique, percutant, tantôt par des équipes de circonscription particulièrement actives, tantôt par des maîtres titulaires qui sont capables d'impulser et d'organiser des choses, tantôt par des directeurs, tantôt. Alors parfois plusieurs d'entre eux simultanément, mais rarement tout le monde au même niveau de la même manière. Est-ce que sous prétexte qu'il y a l'annexe 11 de la circulaire de rentrée, on va s'obliger à appliquer une espèce d'algorithme hiérarchique qui va assécher une dynamique qui serait celle des acteurs? Voilà. On comprend bien qu'entre la souplesse et de l'autre côté l'inquiétude générée par le flou, tout le monde navigue à vue là-dedans. Comment ne pas être trop inquiet, mais néanmoins souple. Voilà, c'est la question. Alors, la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est une remarque sur l'accompagnement. Parce qu'il me semble qu'au fond, ce que vous dites, je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est qu'il y a deux grandes cibles dans l'accompagnement. Le fil, il est clair, c'est les apprentissages des élèves. Mais du coup, accompagner les maîtres pour que l'entreprise, plus de maîtres que de classes, permettre de repousser les limites de ce que je disais tout à l'heure, l'impuissance pédagogique, c'est-à-dire le moment où on dit on n'y arrive pas avec celui-là, avec cela. Vous vous souvenez hier la discussion, on a des différences de conception, disait une collègue hier, cet élève-là, moi j'y ai déjà renoncé. Pour moi, au fond, d'ailleurs, la question elle est fondamentale là. C'est trop vite dit ça. Hein. Qui d'entre nous, à un moment donné, ne s'est pas dit face à ce gamin-là, oui, objectivement, j'ai renoncé. Je vais être gentil, je vais l'accompagner, je vais etc. Mais j'y crois plus dans mon espace d'intervention. S'il y a des pédagogues ici qui n'ont pas eu ce sentiment d'impuissance, il faut vite qu'on les interviewe parce que je ne sais pas comment ils ont fait. Donc après, on va le repousser plus ou moins loin. Et évidemment, une des questions au passage, c'est est-ce qu'on demande aux gens de changer leur conception pour pouvoir travailler avec eux? Ou est-ce que c'est en travaillant avec eux qu'on modifie leur conception? En gros, si on modifie leur pouvoir d'agir, si on fait reculer leur capacité à intervenir auprès d'élèves auprès desquels, classiquement, tout seul, ils auraient renoncé, et que, grâce à nous, grâce au dispositif, grâce au plus de maîtres, alors, finalement, ils s'aperçoivent que quelque chose d'autre et de plus était possible, c'est alors que leur conception se modifie dans un effort de rationalisation après coup. on peut pas leur demander d'avoir une autre conception avant de commencer. Il faut bien que ça soit la réussite de l'action qui modifie les conceptions, et non pas qu'on fasse de la modification des conceptions un préalable. En d'autres termes, on a les objectifs de ces moyens.
Ben oui.
Ce qui inverse radicalement quand même le mode classique de formation qui consiste à dire on va modifier vos conceptions et une fois que vous aurez adopté les bonnes conceptions, vous verrez, vous mettrez en œuvre les pratiques qui correspondent à ces nouvelles conceptions. Ça ne marche pas ça, il faut le dire, ça ne marche pas. C'est de la morale, c'est des trucs de curé, on fait de la culpabilisation, on va expliquer et après les gens sont devant une espèce d'impuissance où ils se sentent mal parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que pourtant ils voudraient bien adopter comme posture éthique, mais que la confrontation fait. Donc moi je pense que c'est repousser les limites dans l'action qui modifie les conceptions. Je finis mon raisonnement, c'était pas ça que je voulais dire, c'était dire si mais on
ça,
a
ça... Ça si on peut te... juste, c'est aussi ce que Nathalie montrait dans la cascade de formation.
Absolument.
Qu'il y avait véritablement cet enjeu-là, c'est-à-dire non pas de faire une formation pour des enseignants, mais faire une formation avec des enseignants.
Mais j'ai dit tout le bien que je pensais cette présentation parce que je crois que c'était exactement ça. C'est pour ça que je suis même excusé de faire un commentaire alors que je trouve qu'elle avait déjà tout dit. Donc, ok. Le dernier point qu'elle a dit, mais que je voudrais redire autrement pour vérifier que j'ai bien compris, c'est autour de cette notion d'accompagnement. Il me semble que l'accompagnement va porter, outre tout l'aspect organisationnel général qui rend possible le fait de descendre vers les apprentissages des élèves. Hein. Et je trouve que là-dessus, c'était limpide. Au fond, il finit par y avoir deux cibles. C'est à quel moment on accompagne des maîtres individuellement, les binômes ou des équipes, dans une activité de préparation de la classe. Et à quel moment on les accompagne dans une activité de réalisation de la classe. C'est-à-dire à quel moment on a besoin d'être présent à côté d'eux quand ils agissent face à des élèves et à quel moment on n'a pas besoin d'être là. On peut être à 4h30, on peut être à d'autres moments en train de discuter autour d'une table parce que ce qu'on a à discuter n'exige pas une observation du réalisé. Et je pense que ça vaut vraiment le coup que tous ceux qui pensent les stratégies d'accompagnement se posent cette question-là, de voir comment ils articulent ces deux niveaux d'accompagnement et voir si il y a, j'allais dire, une sorte de passage obligé qui serait le passage par la classe ou pas. Si ce passage, il est après avoir discuté autour d'une table ou avant. En fait, évidemment, c'est toujours beaucoup plus en cascade que ça. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de moments où on pouvait comprendre que finalement, le travail de co-conception, il serait d'autant plus pertinent qu'il serait précédé par une observation. Et que ça ne serait pas on conçoit, puis ensuite on accompagne dans la réalisation. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a des alternances entre ces deux types d'accompagnement qui étaient en filigrane dans votre présentation, qui seraient vraiment à discuter. Et je vais là au bout du raisonnement. C'est que, au fond, dans l'observation de ce qui se passe en classe, il y a notamment ce que vous avez dit, qui est une observation des difficultés des élèves. Hier, on nous proposait un autre modèle. C'était une évaluation des difficultés des élèves. Et je pense que ça vaut le coup de discuter sur ces deux manières de poser le problème. Parce que moi, je crois beaucoup à la fécondité de cette observation des difficultés des élèves confrontés à des tâches d'enseignement. Ce qui n'est pas la même chose que observer les difficultés des élèves confrontés à des tâches d'évaluation. On ne comprend pas la même chose lorsqu'on regarde un enfant qui est face à une sorte d'évaluation, de tâche d'évaluation, et lorsqu'on le regarde agir au fil d'une activité telle qu'elle est conçue par l'enseignant. Parce qu'on peut faire un double retour, on peut faire un double retour sur la nature de cette activité qui se révèle dans l'effectuation de la tâche, et en même temps une interrogation sur la nature et le bien fondé de cette tâche et de son adéquation aux caractéristiques du gamin. Donc ça devient le couple tâche-compétence qui est interrogé, et non pas la compétence de manière isolée avec sa réification par la tâche d'évaluation elle-même. Et ça vaut le coup d'essayer de le théoriser un petit peu, parce que dans ce cas-là, on peut penser que un des passages dans l'accompagnement, c'est effectivement, ce qui suppose une compétence didactique assez forte de la part de l'accompagnateur, on est d'accord, dans l'accompagnement de cette observation, et à ce moment-là, il n'est pas dans une posture d'aide, il est vraiment dans une posture d'observation pour pouvoir faire un retour au maître en disant, tu sais, lorsque tu leur demandes ça, tu sais ce que Jérémy, il fait, lui, tu sais ce qu'il en comprend, tu sais ce qu'il est capable de faire là, et parce qu'on s'est approché de Jérémy et qu'on l'a accompagné à ce moment-là, on a un regard clinique, on va appeler ça comme ça, qui a un intérêt que aucun test évaluatif un peu sommatif ne rend compte, parce qu'il ne rend pas compte de la dynamique, de la temporalité et de la procédure à l'œuvre. Voilà. Et donc je pense que là, ça vaut le coup de pousser un petit peu un des rôles d'accompagnement ici, qui notamment va aider à mieux reconcevoir, donc dans ce que j'appelais l'autre facette de l'accompagnement, lorsqu'on aide les gens à préparer la classe.